Aujourd'hui, premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la cantate et aujourd'hui du culte cantate qui aura lieu tout à l'heure à 17h30 dans ce temple. Le texte biblique que je vous propose de lire aujourd'hui est un des deux textes bibliques sur lesquels est construite et élaborée cette cantate BWV 187. Elle est appuyée sur un extrait d'un psaume et sur un extrait du discours sur la montagne de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Et pour ce matin, je vous invite à entendre cet extrait de psaume, l'évangile selon Matthieu. Ce sera pour le culte cantate de cet après-midi. C'est au psaume 104 que nous lisons donc les versets 24 à 33, mais la cantate, elle, ne s'appuie particulièrement sur les versets 27 et 28, mais il fallait élargir un peu la lecture. Donc au psaume 104, les versets 24 à 33. Que tes œuvres sont nombreuses, éternelles. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu as produit. Voici la grande et vaste mer. Là fourmillent sans nombre des animaux, petits et grands. Là se déplacent les bateaux et Léviathan que tu as façonné pour jouer avec lui. Eux tous mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Tu te détournes, ils sont saisis d'épouvante. Tu leur retires le souffle, ils périssent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste toujours, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle frissonne, il touche les montagnes et elles fument. Je chanterai pour le Seigneur tant que je vivrai, je chanterai pour mon Dieu tant que j'existerai. Le psaume 104 est un psaume magnifique. C'est le psaume du monde magnifique, du merveilleux monde créé. Je vous invite à ne pas vous contenter des quelques versets lus ce matin, mais à le lire en entier. Son ampleur aux dimensions de la terre entière, de la totalité des animaux et végétaux, de la totalité des vivants, est également bien réduite dans les quelques lignes lues. Mais nous en avons cependant assez entendu pour nous concentrer sur deux mouvements particuliers de ce psaume. Le psaume 104, comme psaume de création, de la création, considère l'univers entier, et donc particulièrement la terre, la terre où nous vivons, et ce qu'elle porte, tout ce qu'elle porte, comme étant en lien avec Dieu. C'est ce que veut dire la création. Et ceci est beaucoup plus essentiel et dynamique que la compréhension d'un Dieu littéral, que la compréhension littérale d'un Dieu fabriquant les divers éléments. Dieu en lien, Dieu en relation, cela exprime bien la notion de sens que recouvre le mot de création, y compris dans ses dimensions d'ordre, de forme, d'éclairage, de spiritualité. Le sens va bien au-delà de la matérialité, au-delà de l'instinct. Le sens saisit et il est adopté. Il oriente, il tient, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve l'humain. Ainsi donc, le lien exprimé dans ces versets est une relation réciproque, relation de don, don de Dieu aux créatures, relation de confiance et de gratitude de la part des créatures envers Dieu. Et ce qu'évoquent particulièrement les versets que nous avons lus, c'est le don de la nourriture et le don du souffle. La nourriture qui rassasie et le souffle qui vivifie. La louange du psalmiste naît de ce qu'il y a sur terre, dans la nature, et puis aussi par la culture, agriculture, de quoi nourrir toute créature, tous les vivants. Pour une grande part, cette abondance ne dépend pas de l'humain, puisque même l'agriculture s'appuie sur les potentialités des plantes ou des animaux. La part humaine, la part agricole, en déploie les possibilités et les organise au mieux. Ainsi donc, l'intelligence, la compétence, la capacité d'innovation des humains sont associées, intégrées dans l'abondance dispensée, une abondance considérée du point de vue de la création, donc comme don de Dieu pour la vie des vivants. Il y a sur terre, dans la terre, une énergie, un foisonnement qui ne dépendent pas de nous, mais dont nous bénéficions comme tous les êtres vivants. Alors il ne s'agit pas de nier qu'il existe des sécheresses, qu'il y a des inondations, mais il s'agit de ne pas oublier que nos existences d'humains ne sont pas déterminées par ce qui survient, mais qu'elles sont destinées à être accordées, ajustées à la bonté originelle qui est la toile de fond de la création, ce que chante le psaume. Et c'est à cette abondance que répond l'ampleur du psaume, de sa louange. Cette louange, elle s'étend, elle se déploie des étoiles du ciel à la profondeur des mers, des bouquetins aux cèdres du Liban, des cigognes aux poissons et même au mythique Léviathan, à la fois monstre marin et jouet de Dieu. Si le psalmiste a un point de vue humain, il n'est pas anthropocentré. Il est un parmi d'autres. Son point de vue est englobant. Il ne considère pas seulement ce qui sert son intérêt d'humain, mais ce qui bénéficie à toutes les créatures. Et si, au verset 13 à 18, que nous allons chanter tout à l'heure, le psalmiste évoque le pain et le vin qui réjouit l'être humain, ce pain et ce vin sont entourés de la mention de l'herbe pour le bétail, et de celle des majestueux cèdres du Liban qui croissent haut, plantés qu'ils sont dans une bonne terre. Alors certainement pouvons-nous nous dire aujourd'hui, et surtout en milieu urbain, qu'il manque à beaucoup d'entre nous la possibilité de regarder les processus de la nature selon les saisons, qu'il manque des potagers, des observations en forêt, l'attention aux animaux dans là où ils vivent plutôt que l'attention aux vidéos de petits chats sur Internet. Il manque plus généralement la curiosité pour tout ce qui n'est pas notre activité humaine. Il manque la conscience de ce qui n'est pas à portée de notre vue. Pourtant, nous ne manquons pas de moyens techniques entre autres, pour connaître tout cela. Tout ce que nous ne voyons pas de nos yeux, nous pouvons le connaître et l'accueillir dans notre compréhension globale du monde grâce à notre intelligence d'être humain. Et puis, la prière de louange, l'action de grâce, pas seulement lors du culte, c'est une manière de demeurer dans l'orientation du bon, signé sur la création, comme le raconte Genèse 1. La prière de louange, l'action de grâce, exprime la gratitude pour ce souffle qui vivifie, qui rend vivant, non pas par hasard, mais pour une vie orientée dans la logique du don. la prière de louange, l'action de grâce, c'est un exercice spirituel. Prière pour élargir nos regards et nos intelligences, voire même décaler notre point de vue d'humain, de notre intérêt à ce que nous recevons, de notre intérêt à ce que nous recevons et partageons avec d'autres. Ainsi, le psalmiste déclare au début du psaume 104 « Mon Dieu, tu es très grand ». Et la grandeur de Dieu, ça ne relève pas d'une formule incantatoire visant à conjurer l'angoisse d'être petit. Nous sommes petits en tant qu'humains. Conjurer cette angoisse en s'accrochant à un Dieu très grand qui peut donc nous protéger. La grandeur de Dieu, ce n'est pas non plus une menace pesant sur ces petits êtres humains. Et surtout pas un argument à jeter à la face de quiconque. La grandeur de Dieu signifie autant son altérité que l'abondance de ses dons. Et cette conviction nous permet de dilater notre esprit au-delà de ses replis d'égoïsme et de convoitise dans la relation que la grandeur divine ouvre en notre âme. Action de grâce aussi pour ne pas lâcher le sens de la création qui rassemble tous les êtres vivants en communauté placée sous le sceau d'un « cela est bon » originel. Et ainsi ne pas se laisser envahir par la peur des dangers, des risques, des disparitions, la peur de l'avenir. La dynamique ainsi créée est positive, sans pour cela nier les risques, ni les dangers, ni même l'angoisse. Mais l'action de grâce dispose nos esprits à la joie, dans nos différentes manières d'engager notre responsabilité d'humain en vivant sur la terre de tous. Ce qui nous porte et nous appelle, ce n'est pas l'annonce d'une catastrophe, c'est ce bon, c'est un amour, c'est la grâce. Louange enfin, pour renouveler et prendre soin de notre capacité à nous émerveiller et à nous étonner, puisque autant la convoitise rétrécit et irrite l'esprit humain, autant la gratitude l'élargit et l'apaise. Alors, je chanterai, tant que je vivrai, tant que j'existerai. Chanter peut-être, quel monde merveilleux! What a wonderful world, plein de potentialités, portant la beauté et la bonté de Dieu jusqu'au cœur de mon être. Alors c'est peut-être même la vie qui devient chant, l'existence qui devient mélodie, accordée à la vaste musique de la création, à l'harmonie profonde de l'univers créé. Amen.